L'accueil de réfugiés, c'est au-delà de l'aspect administratif, on parle de femmes et d'hommes, et on parle d'abord de leur vie et de leurs conditions de séjour, d'accueil et de séjour dans notre pays. Donc partant de là, la notion de santé et la notion d'intégration sociale, elle est forte. Donc l'idée première, et c'est d'ailleurs comme ça que ça fonctionne, c'est que la première des questions, la première des choses, dès qu'on a quelqu'un qui arrive chez nous, ce sont les problématiques de santé. C'est d'abord par ça qu'on commence. Donc ça veut dire que tout le cheminement après, administratif, avec l'OFPRA, avec l'OFI, avec tous les organismes avec lesquels on travaille, il se fait certes, parce que l'objectif c'est d'obtenir le droit d'asile, ou en tout cas de régler les situations administratives des réfugiés, mais c'est d'abord qu'ils soient en bonne santé chez nous. Donc voilà, c'est la base. Donc la première question, c'est finalement comment ça va ? Parce que c'est ça qui est important. Bienvenue et comment ça va ?
C'est vrai que c'était naturel hein, d'accueillir effectivement les personnes migrantes à l'hôpital, puisque c'est notre rôle d'hôpital public et d'hôpital de proximité, donc c'était tout naturel. Effectivement, formaliser les choses, je trouve que c'est bien pour les deux côtés, puisque nous, voilà, ça nous a permis d'adapter un peu nos organisations à l'accueil des migrants, puisque dans la convention, par exemple, on a mis que ça c'est bien s'ils arrivaient avant 16h pour avoir le temps de leur faire tous les examens nécessaire, parce qu'on sait que ça prend un petit peu plus de temps au niveau de la présence de quelqu'un qui serait capable de traduire aussi. Donc c'est vrai que c'est des personnes qu'on aurait accueillies de toute façon sans problème, mais là en plus ça nous a permis d'un peu faire converger nos organisations respectives pour arriver à prendre en charge au mieux les personnes. Donc on est nous aussi vraiment ravis d'être là, puisque ce n'est que la reconnaissance encore une fois de notre rôle d'établissement de proximité, avec à la fois effectivement l'aspect médical mais la possibilité de passer toutes sortes d'examens sur place qui peut être aussi vraiment important pour les personnes, éviter de les faire revenir, de les faire aller ailleurs, etc. Donc c'était à la fois normal et très enrichissant aussi pour nous de construire cette convention avec vous. Donc on vous remercie aussi d'avoir fait appel à nous pour formaliser les choses.
Alors, le centre d'accueil et d'orientation, c'est un centre, donc, comme le disait monsieur le maire tout à l'heure, qui est des centres qui ont été créés en 2015. Ce sont des centres qui sont faits pour accueillir des migrants sur une période, on va dire, assez courte, normalement. Des migrants qui ont fait un long voyage pour arriver jusqu'à nous et qui ont besoin de se poser, déjà dans un premier temps. Donc, ils y trouvent un hébergement, ils y trouvent un endroit confortable, des personnes qui sont là pour les écouter. Donc ça, c'est très important pour un départ. Et puis ensuite, la possibilité de faire des démarches administratives et notamment la demande d'asile. Donc tout un processus en lien avec les instances, donc comme le disait tout à l'heure, la préfecture, l'OFI, qui sont des... Et puis bien sûr, on parlait des milieux hospitaliers, les visites, ça c'est impératif lorsqu'ils arrivent. Les CAO, eh bien, il en existe différents hein, dans les départements, dans Haute-Vienne. Hein, ils ne sont pas tous constitués de la même façon. Le nôtre, eh bien, on les accueille dans des gîtes avec des capacités d'accueil de 3 à 5 migrants par gîte. Ils ont leur chambre, ils ont une cuisine, ils ont une salle de bain, enfin vraiment les petites maisons. Et je crois pouvoir dire qu'ils s'y plaisent sur un site qui est assez remarquable, dans la verdure, au bord d'un lac, où ils se plaisent à jouer très souvent le soir au football. Des nationalités très différentes, des Soudanais, beaucoup, à peu près 60% actuellement sur les carottes. Mais nous avons également un certain nombre d'Iraniens, des Irakiens, beaucoup d'Afghans aussi, quelques Éthiopiens, et il doit nous rester encore un Érythréen qui doit être encore là. Voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps. Monsieur le maire peut-être veut rajouter quelque chose.
Non, ce que je crois, c'est que on peut se féliciter que depuis un an, l'arrivée des réfugiés a à la fois questionné, mais n'a pas bouleversé fondamentalement la vie quotidienne. J'allais presque dire même qu'elle n'a pu ou qu'elle ne peut que l'améliorer. Donc moi, je suis plutôt satisfait de la façon dont les choses se passent. L'intérêt est que nous soyons à la hauteur des enjeux par rapport à l'accueil que nous avons pris le pari de faire ici à Péra, et je crois que c'est le cas aujourd'hui. Donc on peut toujours digresser sur plein de sujets. Aujourd'hui, les choses se passent bien.
En 2015, à l'été, c'est la commune de Péra qui a pris l'initiative, ou c'est la préfecture de la Haute-Vienne? Vous pouvez expliquer un peu comment ça s'est passé, et aussi si le CAO, c'est votre employeur, et du coup, vous dépendez de la préfecture? Enfin, juste comment ça fonctionne? Ça fait deux questions.
Alors, je vais répondre aux deux. Isabelle Faure, Aurélie Quéru et puis d'autres personnels sont embauchés par la mairie. C'est la mairie qui est gestionnaire, ce qui est un peu exceptionnel. Hein. Je crois même d'ailleurs qu'en Haute-Vienne, c'est le seul CAO qui est géré de cette manière-là, puisque les autres sont en règle générale gérés par Adoma, qui est une structure parapublique qui, depuis des décennies, puisqu'avant c'était ce qu'on appelait les GATREM, gère les structures d'accueil pour les réfugiés. Donc ici à Péra.
Et gère par exemple CADA des Moutiers.
Qui gère le CADA des Moutiers par exemple, mais qui gère aussi des CADA à Limoges, qui gère le CAO à Saint-Léger-la-Montagne. Voilà. Donc on est vraiment dans une association parapublique qui a déjà ce fonctionnement-là. Pourquoi à Péra on a choisi une autre méthode? Parce qu'on a eu l'expérience de l'urgence avec le comité d'entreprise d'EDF, la CCAS d'EDF, qui, à l'hiver 2015, a souhaité mettre à disposition ses installations de l'État pour faire ses accueils, et en particulier donc ici à Péra, avec une date limite dans le temps, comme c'est le cas d'ailleurs à Saint-Léger-la-Montagne avec le CE de la SNCF, d'arrêt d'accueil des réfugiés, parce que l'installation en question est une installation qui permet l'accueil des enfants en colonie de vacances pendant l'été. Donc du coup, le temps que l'installation se remette en route, qu'on remette les choses correctement pour accueillir les enfants, ça veut dire que l'année dernière, au mois de mai, nous avions la fermeture de l'hébergement sur ces locaux-là, comme ça sera le cas aussi cette année sur Saint-Léger-la-Montagne, où au mois de mai, le CAO fermera ses portes. Et donc moi, j'ai considéré que, vu le travail que nous avions fait collectivement, avec les associations, avec les élus, avec la population, avec nos partenaires, que ce soit l'ARS, l'État ou autre, que c'était un petit peu dommageable, sachant qu'aujourd'hui, le flux des réfugiés n'est pas tari, et puis il ne va pas tarir demain. Moi, je pense aussi que nous aurons à faire face, peut-être pas demain, ni après-demain, mais aux réfugiés climatiques, qui seront une autre donnée que la collectivité devra prendre en compte à un moment ou à un autre. Je pensais que c'était stupide de ne pas continuer cette aventure, et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé à l'équipe municipale de continuer, que le CAO soit pris en charge par la municipalité elle-même. Et donc nous avions des locaux qui étaient disponibles sur les gîtes de l'étang, que nous avons mis à disposition de l'État pour continuer l'accueil. Et en parallèle, en augmentant les capacités d'accueil, puisque nous étions partis à 30, et là aujourd'hui nous sommes à 50 possibilités d'accueil de réfugiés sur notre site. Voilà.
Donc le CAO de Péra-le-Château a eu une première étape dans le centre de vacances CCAS et maintenant a déménagé dans les gîtes de l'étang.
C'est ça.
Où il reste sans date de fin, a priori.
Moi j'adorerais que les conflits en Syrie, en Irak s'arrêtent. J'adorerais que la montée des eaux soit stoppée. J'adorerais que chacun puisse trouver du travail, soit en sécurité, ne soit plus kidnappé, torturé, assassiné dans les pays qui malheureusement aujourd'hui vivent ce genre de situation. Je crois que c'est malheureusement pas le cas pour demain. Ça veut donc dire que nous aurons encore des réfugiés. Ça veut donc dire que tant que l'État français sera dans une logique de solidarité telle qu'il l'est aujourd'hui, ben, nous serons à ses côtés.
Isabelle Faure, de quoi vivent les personnes accueillies au gîte de l'Étang ?
Alors, ils touchent ce qu'on appelle l'allocation de demandeurs d'asile. L'allocation, donc, le montage en fait du dossier est réalisé par l'OFI au moment de...
L'Office français de
l'immigration et de l'intégration. Au moment de leur arrivée donc, en CAO, ils ont un rendez-vous au guichet unique et ça se passe donc dans les locaux de l'OFI.
À Limoges.
À Limoges, tout à fait. C'est lors de ce rendez-vous qu'est élaboré le dossier donc, de demande d'allocation. Cette allocation leur est versée en principe 45 jours après ce rendez-vous à l'OFI. 6,80 € par jour.
Pour un adulte seul.
Pour un adulte seul, tout à fait. Le CAO de Peyrat-le-Château n'accueillant que des adultes seuls. Ensuite, donc, le CAO les accueille pendant une période courte. Et ensuite, donc, ils sont orientés vers les CADA, les centres d'accueil de demandeurs d'asile. Où là, ils vont avoir trouvé un autre système de fonctionnement, un hébergement qui peut être en colocation. Ils peuvent se retrouver à quatre aussi dans des grands appartements ou alors des chambres seules. Tout dépend de la structure en fait, qui les accueille. Pour ce qui concerne Peyrat, ils sont souvent orientés vers trois types de structures. Les deux CADA de Limoges, donc le CADA Adoma, qui se trouve rue Quai Militaire. Le CADA Estia, qui se trouve plus sur le quartier de Beaubreuil, la Batide. Et le CADA de Perlevade, qui se trouve en Corrèze. Ce sont trois structures complètement différentes, de par les sites géographiques, mais aussi de par leur infrastructure. Ces CADA ont très peu de places disponibles, voire même plus du tout actuellement. D'où la problématique que l'on peut soulever sur le fait que les migrants restent plus longtemps qu'ils ne le devraient dans les centres d'accueil et d'orientation, comme celui de Peyrat-le-Château. Et c'est une problématique que connaît l'ensemble des CAO, que ce soit sur notre territoire, mais également au niveau national. Les CADA sont engorgés. Voilà.
Est-ce que vous avez envie de dire, vous pouvez nous raconter comment ça se passe pour vous qui travaillez pas spécialement au contact
du public, des
étrangers avant cette arrivée, cette création
Expérience professionnelle antérieure m'a permis d'avoir déjà des contacts avec les publics étrangers. Qu'ils n'étaient pas dans des situations aussi difficiles et aussi complexes que peuvent être les situations que l'on rencontre aujourd'hui dans ce centre. Monsieur le maire, lors de sa cérémonie des vœux, a eu une phrase que j'ai retenue. Il a dit que c'était souvent des histoires de larmes et de sang. Tous les jours, au centre d'accueil et d'orientation de Peyrat, nous sommes confrontés à ce type d'histoire. Et là encore, ce matin, nous avons reçu un courrier recommandé donc, qu'un migrant est allé chercher à la poste. Il a appris avec joie qu'il n'était plus dans le cadre de la procédure Dublin. Il est maintenant entré dans le cadre de la procédure normale, ce qui fait que la préfecture de Haute-Vienne va le prendre en charge et qu'il va pouvoir enfin faire une demande d'asile en France. Cette personne est présente sur le territoire français depuis le mois de mai 2016. Donc ça fera 9 mois. Une gestation. Si vous voulez, il y a un délai de 6 mois qui doit s'opérer entre le moment où la personne arrive en préfecture et qu'on lui signifie bon, qu'il est en procédure Dublin et le moment où la préfecture, la dite préfecture, peut le prendre en charge dans le cadre d'une procédure dite normale. Ces 6 mois étaient largement dépassés et depuis 3 mois, il ne s'est pas passé une seule journée sans que cette personne ne soit venue me voir dans mon bureau pour me demander si j'avais des nouvelles. Voilà, et je lui ai appris ça ce matin en lui faisant croire qu'il avait reçu un paquet d'un ami et quand il a ouvert sa lettre et qu'il a vu ce que c'était, voilà.
Et tous les jours, c'est vous qui recevez les courriers
Alors, ils vont les chercher, hein, ils ont des recommandés, donc c'est à leur nom. Ce que je fais, moi, c'est que j'assure la traduction. Donc, ils ouvrent leurs plis et je leur traduis ce que cela signifie. Bon, un certain nombre sont anglophones, moi je parle anglais, donc ça facilite quand même la communication. Ceci dit, la demande d'asile est un vocabulaire technique, donc il a fallu acquérir. Mais bon, ce n'est pas un problème, on arrive toujours à faire comprendre une bonne nouvelle.
Et pour un Soudanais qui parle que arabe ou d'autres langues, quand il n'y a pas de langue commune, comment ça se passe ?
Eh bien,
moi,
en fait,
vous parliez arabe, non ?
Non, pas encore, à part salam alaikum, alaikum salam. Mais il y a toujours un autre Soudanais qui parle anglais.
Voilà.
Ah oui, complètement. Ou sinon, on fait des signes, on fait des dessins.
Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas seul et qu'on a beaucoup travaillé avec d'autres associations. On a un de vos confrères, journaliste, avocat irakien, installé à Limoges, réfugié politique depuis maintenant quelques années, qui avait d'ailleurs fait les honneurs de la presse il y a quelques semaines, est venu pour nos voeux à notre invitation, dans la mesure où on considère que c'est en créant un réseau, alors qui existe, hein, puisque la solidarité sur le plateau ici, c'est quand même quelque chose qui fait une de nos caractéristiques, mais c'est aussi de l'élargir et puis de trouver des personnes ressources, des personnes refuges qui seraient capables, si on en avait besoin, de pouvoir nous épauler. Donc c'est l'idée, elle est là aussi, et on sait pertinemment qu'avec d'autres associations locales, proches de nous, qui travaillent avec le CADA, on passe à monter une solidarité ou des choses comme ça. On sait qu'on peut trouver des personnes qui seraient en capacité ou de faire directement, ou en tout cas de trouver l'autre personne ressource. Donc, c'est pas ce qui nous arrête.
Et la langue, beaucoup veulent apprendre le français. Vous pouvez pas forcément leur proposer des cours. Comment
Famille
ça se passe
rurale,
alors, l'association Famille Rurale, qui est extrêmement dynamique. Et je
la Famille Rurale de Peyrales-Château.
Oui, je me lasse pas de les féliciter. Alors, Famille Rurale était une association extrêmement dynamique qui a mis en place donc des cours de français avec un ensemble de bénévoles qui n'hésitent pas à se rapprocher du CAO de façon directe pour savoir comment elles peuvent apporter leur aide dans l'apprentissage du français. Ce sont des anciens enseignants qui ont des méthodes pédagogiques qui existent, donc elles apportent elles-mêmes leurs ressources. Et chaque jour, chaque après-midi, de 14h à 16h, il y a des cours de français qui sont organisés dans cette salle où nous sommes actuellement, la salle du conseil municipal de la mairie de Peyra. 20 personnes chaque jour, ils sont 49 migrants, et chaque jour on a 20 migrants qui viennent assister à ces cours. Donc il y a 3, il y a 4 bénévoles, il y a des ateliers qui se mettent en place dans cette même salle en fonction des niveaux, en fonction des travaux qui sont proposés par les enseignants. Ensuite, il existe d'autres types de cours de langue, parce que certains sont anglophones. Alors pourquoi leur faire perdre aussi la langue anglaise ? Donc il y a aussi des ateliers qui se sont mis en place, notamment un le lundi matin, pendant 2 heures, pour continuer à leur faire conserver cette langue anglaise, qui m'est bien utile à moi aussi, parce que comme c'est pour certains la seule façon que j'ai de communiquer avec eux de façon directe, eh bien cette initiative a été aussi vraiment bien accueillie. La dernière initiative qui s'est mise en place, ce sont les cours de langue via l'informatique. Maintenant, nous avons un atelier informatique le soir, il y en a quasiment un chaque soir de la semaine, sur le site, donc toujours dans la mairie de Peyra, une salle informatique qui avait été mise en place avec du matériel, il doit y avoir 5 postes informatiques. D'autres bénévoles se mettent encore à la disposition des migrants pour venir leur assurer les cours de français via l'informatique. Depuis que je suis arrivée à Peyra, je suis toujours stupéfaite de cette solidarité qui existe sur ce territoire, à l'attention des migrants. Voilà.